Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi la revue de presse. Et après, nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui et ensuite la mise au point. La revue suivante, comme d'habitude, nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi la revue de presse.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le journal. Et on commence avec les titres. Engagé au contrôle du tabac, le gouvernement indonésien organisera la 4e conférence nationale sur le tabac. L'Indonésie et la Jordanie encouragent l'intensification de la coopération économique. L'Indonésie et Chili renforcent la coopération commerciale. Au sommet Obor, l'Indonésie ouvrira le développement des transports. L'ambassadeur a encouragé Java West à pénétrer le marché culinaire halal de la Chine. Lipi va lancer les timbres d'une série d'orchidées de 34 provinces. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien, via le ministère de la Santé en collaboration avec le Centre de soutien au contrôle du tabac, Association des experts indonésiens en santé publique, tiendra la 4e conférence indonésienne sur le tabac ou la santé 2017 du 14 au 16 mai à Jakarta. Le directeur de la promotion de la santé et l'autonomisation des personnes du ministère de la Santé, M. Dedi Kuswenda, récemment à Jakarta, a déclaré que la conférence à laquelle participeraient le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les universitaires vise à atteindre le bon sens et l'engagement pour atteindre l'objectif de développement durable, ou SDG. La conférence vise à établir un accord visant à intégrer les mesures de contrôle du tabac et à partager les meilleures pratiques en matière de lutte anti-tabac. Le rôle est de renforcer l'engagement des parties prenantes en ce qui concerne les mesures relatives à la lutte anti-tabac comme clé pour atteindre l'objectif de développement durable. Créer un accord et d'intégrer les mesures de contrôle du tabac et d'atteindre les SDG. M. Dedi Kuswenda a également déclaré que le gouvernement s'entendait à ce que la réunion génère les engagements des parties prenantes pour renforcer la politique de lutte anti-tabac en Indonésie. Le gouvernement s'attend également à ce que la conférence générera les options politiques sur la lutte anti-tabac au sein du pays, soit au niveau national ou régional. L'Organisation mondiale de la santé a placé l'Indonésie comme le 3e principal marché du tabac après la Chine et l'Inde. Les données montrent que l'épidémie de cigarettes en Indonésie atteint un point alarmant où plus d'un tiers de la population de l'Indonésie est inclus comme fumeur. Les relations économiques bilatérales entre l'Indonésie et la Jordanie sont considérées d'avoir les bonnes relations parce que la Jordanie peut être l'accès à la liaison des produits indonésiens à d'autres pays arabes. Le président du Conseil d'affaires Indonésie-Jordanie, Mayra Andrea, dans un communiqué de presse récemment à Jakarta, a déclaré que l'établissement de UBC facilite les entreprises entre les deux pays pour renforcer la coopération bilatérale. Il est prévu de donner un effet positif sur l'économie. Mayra Andrea a déclaré que les hommes d'affaires indonésiens doivent explorer les opportunités de la destination d'exportation vers les pays non traditionnels comme la Jordanie, qui est dans la région du Moyen-Orient. Il a dit qu'il commencerait à penser pour que chaque partie puisse avoir un entrepôt spécial des produits indonésiens en Jordanie. Cependant, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Comité du Moyen-Orient, Fahri Taib, a affirmé qu'il y ait des obstacles commerciaux avec la Jordanie, mais ces obstacles doivent être surmontés afin de pouvoir réduire. Le président Joko Widodo a reçu la visite du président chilien Michel Bachelet le vendredi matin. Dans cette visite, l'Indonésie et le Chili ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans le domaine commercial. Le président Joko Widodo, lors de donner d'une conférence de presse avec son homologue du Chili au Palais d'État Jakarta, a déclaré vendredi que Chili était le troisième plus grand partenaire commercial pour l'Indonésie en Amérique du Sud. Et les questions de commerce et de l'investissement sont les principaux sujets de discussion. Le président Joko Widodo a également souhaité que les deux pays puissent finaliser bientôt les négociations de l'accord de partenariat économique global ou CEPA dans le domaine du commerce des marchandises cette année. Le président du Chili visite un bon moment en Indonésie car actuellement l'Indonésie s'efforce à intensifier la coopération de commerce et d'investissement avec des partenaires non traditionnels, y compris les pays Amérique du Sud. Le Chili devient l'une des priorités de ces deux pays. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien proposera un certain nombre de secteurs pour attirer l'intérêt des investissements de la Chine lors du sommet One Belt One Road au Haut Bord à Pékin, en Chine, du 14 au 15 mai. Le ministre indonésien de la coordination maritime, M. Luhut Binsar Panjaitan, après la séance préparatoire finale du président Joko Widodo, a déclaré que l'un des principaux investissements offerts en Chine était le développement des infrastructures de transport dans le nord de Sumatra et Sulawesi du Nord. Le gouvernement veut le développement massif des infrastructures dans tous les pays, non seulement en Java. Selon Luhut Panjaitan, jusqu'à présent, il y a encore un déséquilibre des infrastructures entre Java et en dehors de Java. En outre, Luhut a également déclaré que le gouvernement indonésien ouvrira également des investissements dans le secteur de l'énergie, tels que la construction de la raffinerie de Bontang à l'est de Kalimantan et le secteur du tourisme à Mandalika, Lombok. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine et de Mongolie, M. Sugeng Raharjo, a encouragé le gouvernement provincial de Java West de pénétrer le marché culinaire halal dans certaines régions de la Chine habitées par la communauté musulmane. Le potentiel assez grand est dans Qingshai, Sichuan, Dugangsu et Xinjiang. C'est ce qu'a affirmé Sugeng Raharjo lorsqu'il a accepté la visite du gouverneur de l'Ouest de Java, M. Ahmad Heriawan, et sa suite à l'ambassade d'Indonésie à Beijing. Il a reconnu que l'Indonésie était un peu tard de pénétrer le marché culinaire halal qui est aimé de plus en plus par le peuple de la Chine, non seulement de la communauté musulmane. À cette occasion, Sugeng suggère le gouverneur de l'Ouest de Java d'inviter les musulmans à visiter certaines régions de la communauté musulmane. Ainsi, les ulémas seront en mesure de transmettre aux musulmans en Indonésie sur le développement de l'islam en Chine. En plus des ulémas, Sugeng Raharjo veut que la province de Java West amène les universitaires et les jeunes hommes. Les jeunes hommes sont très importants afin qu'ils ne soient pas mal attendus au sujet de la Chine. Ne considèrent pas la Chine comme une menace, mais beaucoup de possibilités qui peuvent être exploitées. L'Institut indonésien des sciences au LIPI va lancer les timbres spéciaux d'une série d'orchidées de 34 provinces en Indonésie. Les timbres d'orchidées sont l'une des façons de promouvoir la recherche d'orchidées en Indonésie. Le chef du Centre pour la conservation des plantes de jardin botanique, M. Didi Widiatmoko, à Bogor, Jepawes, a déclaré que les timbres d'orchidées seront lancés au pic de la commémoration de 200 ans de jardin botanique de Bogor le 18 mai 2017. Il a déclaré que les timbres d'orchidées de 34 provinces sont l'engagement de l'IPI par le Centre de la conservation des plantes de jardin botanique pour conserver les orchidées en Indonésie. Cet engagement est montré par les efforts de conservation menés en continu à travers la découverte de nouveaux espaces, la multiplication de semences, d'explorer les avantages et réintroduction à l'habitat naturel. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Média Indonésia, le jeudi 20 avril 2017, ayant pour titre « Respecter les mesures juridiques de Basuki Cahaya Purnama ». La décision du tribunal doit être considérée comme vraie et respectée. C'est l'un des principes de base applicables dans le pays qui respecte la loi. Il doit être considéré comme une bonne décision avant le tribunal supérieur décide une autre. Ainsi, le verdict du tribunal de Jakarta du Nord sur le gouverneur de Jakarta, M. Basuki Cahaya Purnama ou Ahok, doit être considéré comme correct et respecté. En même temps, il faut respecter les droits de Ahok de chercher la vérité et la justice substantive. L'Assemblée des juges du Tribunal du Nord de Jakarta, présidée par M. Duerso Budi Santiarto, a condamné Ahok 2 ans de prison et immédiatement arrêté mardi 9 mai 2017. Le gouverneur a déclaré qu'il fera appel contre le verdict. Maintenant, il a été détenu dans Mako Brimob Kelapa II Depok. Selon le journal Media Indonesia, les participants de Ahok doivent respecter les décisions de justice comme Ahok aussi respecte de la loi. Et ensuite, l'éditorial du journal Sindo, dans son éditorial le mardi 9 mai, a écrit « La consistance des maisons à bas prix ». Au cours des 2 dernières semaines, l'engagement du gouvernement à réaliser un logement à faible coût pour les personnes à faible revenu ornent les nouvelles dans les médias. Comment puis-je obtenir ces maisons à bas prix? C'est la preuve du gouvernement de réaliser le logement à faible coût avec à compte 1% du prix de la maison dans le cadre du programme d'un million de logements par le gouvernement. Le président a inauguré 3 endroits comme une zone de logement à faible coût, ce qui est dans la région de Tangerang, Depok, Jawa West et Cikarang, Bekasi, Jawa West. Après cela, suivi de diverses régions de l'Indonésie. Selon le quotidien Sindo, les mesures gouvernementales pour surmonter le développement du logement de blocage, notamment pour les classes inférieures, doivent être appréciées. Mais le gouvernement doit être rappelé de rester être consistant pour quelque chose en ce qui concerne la viabilité du programme du logement. Lié à la disponibilité des moyens de transport adéquats, plusieurs développeurs ont suggéré au gouvernement de faire les zones précises et la consistance des politiques entre le gouvernement central et le gouvernement local. Nous terminons la revue de presse avec l'éditorial du journal Compass, mardi 9 mai 2017, qui a écrit « La transformation de 50 ans de Bulog ». À l'âge de 5 ans le 10 mai, le défi de l'agence de gestion logistique au Bulog est de trouver la pertinence vers des changements. Depuis sa création, Bulog a une tâche importante pour fournir de la nourriture et la stabilité des prix. Les produits alimentaires qui sont toujours traités et durés comme l'aliment de base de la société et détermine la stabilité politique. En 2016, le président fixait Bullock aussi maintenir la stabilité des prix et des produits de maïs et de soja. L'Indonésie atteint l'autosuffisance en riz en 1984 et est reconnue par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Avant le 50e anniversaire, mercredi 10 mai 2017, Bullock fait la transformation. Cette fois-ci, Bullock est le ministère des villages. Le développement des villages défavorisés et transmigration ont créé l'entité commerciale appartenant au village PT Mitra Bumdes Nusantara qui va accueillir et commercialiser des produits de Bumdes en renforçant la structure de Bumdes. Selon Kompas, il sera mieux Bullock facilite Bumdes d'établir l'agro-industrie pour accroître la valeur ajoutée dans le village. De cette façon, Bullock peut participer au développement de l'économie nationale, réduire l'inégalité des richesses et de faire respecter la souveraineté alimentaire nationale. Chers amis, c'était la revue de presse de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons cette édition avec la journée de Rotuma. La journée de Rotuma est une célébration annuelle tenue chaque 13 mai sur l'île de Rotuma, Fidji. Cette célébration commémore la capitalisation de l'île de Rotuma au Royaume-Uni le 13 mai 1881. La célébration, qui se fait habituellement le week-end le plus proche au 13 mai, réunit des représentants de la délégation du gouvernement de Fidji, comprenant un certain nombre de ministres. Cette occasion est également profitée par les délégations pour examiner les différents projets de développement mis en œuvre par le gouvernement de Fidji sur l'île de Rotuma. Rotuma est une petite île située à environ 400 km au nord de Fidji. Passons à un événement sportif. En 1950, le Grand Prix de F1 a été tenu pour la première fois. Avant le jeu officiel des véhicules à quatre roues, les compétitions sportives du sport automobile avaient déjà existé depuis 1894. Mais le 13 mai 1950 est devenu le point de départ d'une course officielle de véhicules à quatre roues, dit la Formule 1. Le premier Grand Prix a eu lieu au Royaume-Uni, au stade de Silverstone, et couvrir une distance équivalente à la distance de la course aujourd'hui, d'environ 300 km. Dans ce Grand Prix, le F1 a été dominé par les pilotes d'Italie, Giuseppe Farina, avec son véhicule de constructeur automobile italien Alfa Romeo. La suite, passons à l'événement des émeutes raciales sino-malais à Kuala Lumpur en Malaisie qui a eu lieu le 13 mai 1969. Ces émeutes raciales entre les ethniques chinois et les malais ont laissé au moins 184 des morts. À cette époque, la Malaisie souffrait de l'inégalité de la richesse entre les groupes d'origine chinoise, dont la plupart est des commerçants qui contrôlent la majeure partie de l'économie malaisienne, et la population pauvre malaise. Les émeutes raciales à Singapour en 1964 est aussi l'une des causes majeures de la séparation de Singapour avec la Malaisie. Chers amis, voilà l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point. Et en beau titre, l'Indonésie invite les investisseurs de développer le port en Indonésie. L'Indonésie devient l'hôte de la 30e conférence mondiale des ports du 7 au 12 mai 2017 à Nusa Dua, Bali. Les organisateurs de cette conférence sont PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3 et Pelindo 4. 459 délégués des ports internationaux de 51 pays ont assisté à l'événement. Ils sont venus de la Chine, de l'Allemagne, du Pays-Bas, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de l'Iran, des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Norvège. Le président directeur de PT Pelabuhan Indonesia 2, Elvin Masaya, au milieu de la conférence mercredi 10 mai, a dit « La conférence mondiale des ports est l'un des événements pour échanger des idées des responsables des affaires portuaires liées à la durabilité des efforts dans le domaine du port. » La conférence est également utilisée pour renforcer le système portuaire indonésien dans le pays ainsi que d'ouvrir de nouveaux réseaux avec d'autres pays experts maritimes. Selon Elvin, les ports en Indonésie ont préparé de diverses infrastructures pour soutenir le concept de la durabilité. L'un d'entre eux, on a comparé la profondeur de l'eau à tous les ports en Indonésie. Il peut donc accueillir des grands navires. L'Indonésie a également transformé le port numérique tel que le système national indonésien guichet unique, parce que le monde a besoin de ports numériques. Cependant, le président de l'Association internationale des ports, Santiago Garcia Mila, a dit « Le concept de durabilité du port n'est pas seulement sur le côté commercial, mais aussi la durabilité sociale, à savoir la création d'emplois. » La conférence mondiale des ports était officiellement ouverte par le ministre du Maritime, Luhut Binsar Panjaitan, le mercredi 10 mai. Dans son discours, le ministre Luhut a invité les investisseurs étrangers à investir en Indonésie. Luhut a dit « Les ports ont le rôle important en Indonésie qui se rend compte de la vision d'un axe maritime mondial ». Il a promis d'être transparent et d'essayer de rendre le pays plus efficace à l'avenir. Lors de cette conférence, il y a la signature du mémorandum de compréhension entre l'Indonésie, dans ce cas PT Pelindo, et l'entreprise de port d'Azerbaïdjan, Baku International Sea Trade Port, soit port de Baku, et l'entreprise de port chinoise, port de Ningbo. Cette coopération des ports sœurs vise à établir la coopération d'affaires et partenariat, l'application du standard de gérant d'opérations de ports, coopération dans le secteur d'informatique et l'infrastructure. Selon Elvin, il y a des avantages de coopération à gagner par PT Pelindo avec Port de Baku et Port de Ningbo. Cette collaboration apportera l'exportation et l'importation directe à l'Azerbaïdjan et la Chine. Ainsi, le volume du commerce indonésien peut être augmenté. Chers amis, c'était la mise au point.
Le gouvernement indonésien, via le ministère de la Santé en collaboration avec le Centre de soutien au contrôle du tabac, Association des experts indonésiens en santé publique, tiendra la 4e conférence indonésienne sur le tabac ou la santé 2017 du 14 au 16 mai à Jakarta. Le directeur de la promotion de la santé et l'autonomisation des personnes du ministère de la Santé, M. Dedi Kuswenda, récemment à Jakarta a déclaré que la conférence à laquelle participeraient le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les universitaires vise à atteindre le bon sens et l'engagement pour atteindre l'objectif de développement durable, ou SDG. La conférence vise à établir un accord visant à intégrer les mesures de contrôle du tabac et à partager les meilleures pratiques en matière de lutte anti-tabac. Le rôle est de renforcer l'engagement des parties prenantes en ce qui concerne les mesures relatives à la lutte anti-tabac comme clé pour atteindre l'objectif de développement durable. Créer un accord et d'intégrer les mesures de contrôle du tabac et d'atteindre les SDG. M. Dedi Kuswenda a également déclaré que le gouvernement s'entendait à ce que la réunion génère les engagements des parties prenantes pour renforcer la politique de lutte anti-tabac en Indonésie. Le gouvernement s'attend également à ce que la conférence générera les options politiques sur la lutte anti-tabac au sein du pays, soit au niveau national ou régional. L'Organisation mondiale de la santé a placé l'Indonésie comme le troisième principal marché du tabac après la Chine et l'Inde. Les données montrent que l'épidémie de cigarettes en Indonésie atteint un point alarmant où plus d'un tiers de la population de l'Indonésie est inclus comme fumeur. Les relations économiques bilatérales entre l'Indonésie et la Jordanie sont considérées d'avoir les bonnes relations parce que la Jordanie peut être l'accès à la liaison des produits indonésiens à d'autres pays arabes. Le président du Conseil d'affaires Indonésie-Jordanie, Maira Andrea, dans un communiqué de presse récemment à Jakarta, a déclaré que l'établissement de UBC facilite les entreprises entre les deux pays pour renforcer la coopération bilatérale. Il est prévu de donner un effet positif sur l'économie. Maira Andrea a déclaré que les hommes d'affaires indonésiens doivent explorer les opportunités de la destination d'exportation vers les pays non traditionnels comme la Jordanie, qui est dans la région du Moyen-Orient. Il a dit qu'il commencerait à penser pour que chaque partie puisse avoir un entrepôt spécial des produits indonésiens en Jordanie. Cependant, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Comité du Moyen-Orient, Fahri Taib, a affirmé qu'il y ait des obstacles commerciaux avec la Jordanie, mais ces obstacles doivent être surmontés afin de pouvoir réduire. Le président Joko Widodo a reçu la visite du président chilien Michel Bachelet. Le vendredi matin, dans cette visite, l'Indonésie et le Chili ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans le domaine commercial. Le président Joko Widodo, lors de donner d'une conférence de presse avec son homologue du Chili au Palais d'État Jakarta, a déclaré vendredi que Chili était le troisième plus grand partenaire commercial pour l'Indonésie en Amérique du Sud. Et les questions de commerce et de l'investissement sont les principaux sujets de discussion. Le président Joko Widodo a également souhaité que les deux pays puissent finaliser bientôt les négociations de l'accord de partenariat économique global, ou CEPA, dans le domaine du commerce des marchandises cette année. Le président du Chili visite en bon moment en Indonésie, car actuellement l'Indonésie s'efforce à intensifier la coopération de commerce et d'investissement avec des partenaires non traditionnels, y compris les pays d'Amérique du Sud. Le Chili devient l'une des priorités de ces deux pays. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien proposera un certain nombre de secteurs pour attirer l'intérêt des investissements de la Chine lors du sommet One Belt, One Road au Obor à Pékin, en Chine, du 14 au 15 mai. Le ministre indonésien de la coordination maritime, M. Luhut Binsar Panjaitan, après la séance préparatoire finale du président Joko Widodo, a déclaré que l'un des principaux investissements offerts en Chine était le développement des infrastructures de transport dans le nord de Sumatra et Sulawesi du Nord. Le gouvernement veut le développement massif des infrastructures dans tous les pays, non seulement en Java. Selon Luhut Panjaitan, jusqu'à présent, il y a encore un déséquilibre des infrastructures entre Java et en dehors de Java. En outre, Luhut a également déclaré que le gouvernement indonésien ouvrira également des investissements dans le secteur de l'énergie, tels que la construction de la raffinerie de Bontang à l'est de Kalimantan et le secteur du tourisme à Mandalika, Lombok. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine et de Mongolie, M. Sugeng Raharjo, a encouragé le gouvernement provincial de Java West de pénétrer le marché culinaire halal dans certaines régions de la Chine habitées par la communauté musulmane. Le potentiel assez grand est dans Qingshai, Sichuan, Dugangsu et Xinjiang. C'est ce qu'a affirmé Sugeng Raharjo lorsqu'il a accepté la visite du gouverneur de l'Ouest de Java, M. Ahmad Heriawan, et sa suite à l'ambassade d'Indonésie à Beijing. Il a reconnu que l'Indonésie était un peu tard de pénétrer le marché culinaire halal qui est aimé de plus en plus par le peuple de la Chine, dont seulement de la communauté musulmane. À cette occasion, Sugeng suggère le gouverneur de l'Ouest de Java d'inviter les musulmans à visiter certaines régions de la communauté musulmane. Ainsi, les ulémas seront en mesure de transmettre aux musulmans en Indonésie sur le développement de l'islam en Chine. En plus des ulémas, Sugeng Raharjo veut que la province de Java West amène les universitaires et les jeunes hommes. Les jeunes hommes sont très importants afin qu'ils ne soient pas mal attendus au sujet de la Chine. Ne considèrent pas la Chine comme une menace, mais beaucoup de possibilités qui peuvent être exploitées. L'Institut indonésien des sciences ULIPI va lancer les timbres spéciaux d'une série d'orchidées de 34 provinces en Indonésie. Les timbres d'orchidées sont l'une des façons de promouvoir la recherche d'orchidées en Indonésie. Le chef du Centre pour la conservation des plants de jardin botanique, M. Didi Widiatmoko à Bogor, Java West, a déclaré que les timbres d'orchidées seront lancés au pic de la commémoration de 200 ans de jardin botanique de Bogor le 18 mai 2017. Il a déclaré que les timbres d'orchidées de 34 provinces sont l'engagement de l'IPI par le Centre de la conservation des plants de jardin botanique pour conserver les orchidées en Indonésie. Cet engagement est montré par les efforts de conservation menés en continu à travers la découverte de nouveaux espaces. La multiplication de semences, d'explorer les avantages et réintroduction à l'habitat naturel.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel et aujourd'hui nous vous invitons à visiter Boyolali, Java Central. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Boyolali est une région à Java Central qui a le beau charme touristique. Boyolali est située au pied de l'est du mont Merapi et mont Merbabu qui a un paysage très beau. Il y a un vaste jardin de potagers verts et vallonnés et le mont Merapi est en vue clairement. La voix Solo Boyolali Chopogo Selo Borobudur, soit SSB, qui traverse les deux montagnes, est à la fois promu pour attirer la piste touristique intéressante et dans le choix de voyage pour les touristes nationaux et étrangers. En plus des vues panoramiques du Mont Merapi et Mont Merbabu, le district Boyolali a également des attractions touristiques telles que l'eau de sources naturelles qui coule en continu et très claire. L'eau de sources naturelles est bien entretenue dans les attractions d'eau, piscines, étangs de pêche et des restaurants comme Atlatar et Pengging dans le district Banyu Dono. Il y a plus les belles réservoirs Sidorejo et Kedung Ombo dans le hameau Sidorejo. En plus des attractions touristiques existantes, la communauté et le gouvernement du district Boyolali continuent également de développer leur potentiel touristique en ouvrant une nouvelle attraction touristique. L'une des nouvelles attractions est le parc naturel Surapanta qui était ouvert en janvier 2017. Ce parc naturel a émergé de la créativité et le travail acharné des jeunes autour de lui. Il se situe au village Pantaran, Talak Broto, district Simo, Boyolali, Java Central. Si vous deviez de Semarang, capitale de Java Central, Boyolali se trouve après avoir passé Salatiga. Lors d'une visite au parc naturel Surapanta, vous pouvez profiter de la beauté et la fraîcheur de la nature parce que le parc a un concept naturel et joliment aménagé. Dans ce parc coule la rivière Claire Pantaran. La région aux côtés de la rivière propre est transformée en jardin bien entretenu avec des installations touristiques telles que les poses à vue selfie. Non seulement cela, vous pouvez profiter de la fraîcheur de la rivière Pantaran avec une baignade dans le barrage créé ou tout simplement prendre les photos dans le parc, le pont et les murs de ce point de repère touristique. Dans ce parc, il y a également trois belvédères, ainsi que des dizaines de chaises pour les touristes qui veulent profiter du paysage naturel. Cette destination touristique est assez aimée par les jeunes. En plus du paysage qui invite à selfie, les tarifs facturés pour l'admission garée est seulement 2000 rupiah et l'argent de l'hygiène volontairement. Pour ceux qui veulent visiter ce parc naturel, ne viennent pas quand la saison de pluie. Chaque fois qu'il pleut, certaines roches seront très glissantes et très dangereuses si vous prenez des photos sur elles. Sans parler, lorsque la pluie ou après une forte pluie peut être très déterminée en grand volume d'eau et le débit d'eau de la rivière étant très lourd. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs. Et aujourd'hui, nous vous introduisons la culture de tissage à Sulawesi Sud. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia,
La Voix d'Indonésie. La province Sulawesi Sud, qui est située dans la partie orientale de l'Indonésie, possède une variété de potentiels culturels qui existent encore aujourd'hui. L'un d'entre eux est le tissage. L'un des centres de production de tissage à cette province est la zone Sengkang, en région Swajo, province Sulawesi Sud. En général, les femmes à Sengkang et Wajo sont très familiers avec les activités de tissage. Il n'y a pas de limite d'âge pour exercer l'activité. Bien entendu, de nombreuses femmes à Wajo et Sengkang ne sont pas difficiles à apprendre à tisser. D'habitude, une femme des deux régions est capable de produire des tissus avec une longueur de 2 mètres par jour. Vu l'histoire de tissage de la soie typique Sulawesi Sud, ne peut certainement pas être séparé de vêtements bodo. Le vêtement bodo est une chemise typique de cette province, en fil de soie tissé. Dans le passé, cette chemise est considérée comme monotone et limitée aux vêtements de la famille royale de Goa. Cependant, avec tant de changements créés par des dessinés locaux, cette chemise est devenue le vêtement officiel est recherché par les jeunes d'aujourd'hui. Bien qu'à présent, il y a beaucoup de tissage entre en Indonésie, d'autres pays, mais le tissage typique d'Indonésie ont encore leurs propres avantages au jeu des amateurs. Les tissus d'autres pays sont généralement fabriqués à l'aide de machines, ainsi que la masse produite, contrairement aux tissus indonésiens, notamment de Sulawesi Sud. Le tissage dans la ville surnommée Lebang Mamiri est fait en utilisant des équipements en bois et des colorants naturels, soit traditionnels. En plus de différents motifs, la couleur de tissage, le travail des femmes Sengkang est différent. Exemple de tissage de la Thaïlande, la plupart est sombre, tandis que le tissage d'Indonésie, notamment de Sulawesi Sud, a la couleur lumineuse. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter des chansons indonésiennes présentées par un groupe de musique indie de l'Indonésie nommé Banda Neira. Cependant, avant de faire connaissance avec ce groupe, nous allons ouvrir la réunion cette fois avec une chanson intitulée Au-dessous de Paperboat. Oh.
tapi di sana hujan. Tiada berkesudahan, tapi di sana hujan turun membasahi semua sudut kota. Hapus tiap jejak jalan pulang. Berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas bersandar kelayarnya, di antara suka, di antara duka. Tapi di sana hujan turun membasahi semua sudut kota. Hapus tiap jejak jalan pulang. Oh, berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas bersandar kelayarnya, di antara suka, di antara oh, berangkat di atas kapal kertas, menggantungkan haluan, menambal menyulam, menghindari karerangkat. Di atas kapal kertas bersandar kelayarnya, di antara suka, di antara duka.
Jeremy voilà la chanson au-dessus de Paperboat de Bandanera. Il englobe de musique de genre folklorique indonésie, se compose de Ananda Badudu, guitare et chante, et aussi la sœur de la chanteuse indonésienne très connue, Isyana Sarasvati, nommée Rara Sekar. Bandanera est née d'un projet frauduleux de Ananda et Roro en 2012. Pour passer leur temps libre, ils ont enregistré 4 chansons intitulées Au-dessous de Paperboat, soit Nulle part, Toute pleine et désir. Et après, élan les initiant à leur famille et aux médias parahyangan. Et ensuite, ils ont essayé de télécharger leurs œuvres sur le site de musique SoundCloud. Bandanera est le nom de l'île dans les Moluques. Ananda et Roro ont choisi le nom parce qu'ils ont été impressionnés par Sultan Syahrir et Hatta, exilés autrefois par le colonial hollandais à Bandanera. Bien qu'en exil, ces deux figures nationales se sentent même au paradis grâce à la beauté naturelle et l'hospitalité des habitants de Bandanera. Chers amis, avant de discuter plus sur le groupe de musique Bandanera, nous écoutons d'abord une chanson intitulée « Marcher plus loin ».
Thank you. pagi terlalu berharga untuk kita lewati dengan tertidur. Bangun sebab hari terlalu berharga untuk kita lalui dengan bersungut-sungut.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons pop chantées par Banda Neira. C'était une chanson intitulée Marché plus loin, chantée par groupe de musique Banda Neira. Il se présente officiellement au public en février 2012. Ce groupe présente son premier mini-album en août 2012 intitulé Temps partiel. Cet album contient quatre premiers enregistrements qu'il classe comme Misérable Pop et en avril 2013, Banda Neira a sorti un album intitulé Marché plus loin. Avant de décider d'être vide, Banda Neira a sorti un album intitulé Celui brisé grandira, celui perdu sera remplacé en 2016. Cet groupe, par son compte Instagram, à la fin de 2016, a annoncé la dissolution du groupe qui a travaillé pendant 4 ans. Bien, voilà le bref aperçu d'un groupe indie appelé Banda Neira. Pour fermer notre rencontre cette fois, Nous écoutons une chanson de Bandanera intitulée Celui brisé grandira, celui perdu sera remplacé, et jusqu'à ce qu'il s'agisse de poussière. Je vous remercie de votre attention et au revoir. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.